comme un ordre qui n'est plus du tout l'ordre révélé. C'est très vrai. Et par le fait même, ça peut poser une question, on comprend très bien. Ce n'est pas l'ordre de l'écriture, c'est l'ordre du théologien. Or, la théologie s'enracine dans l'écriture, et donc le théologien devrait humblement suivre l'ordre de l'écriture. Très grosse objection, parce que surtout aujourd'hui avec la théologie biblique, avec l'exégèse qui prend une très grande importance, on dit c'est pas ça du tout. Alors on ajoute cette objection que j'ai entendue de mes propres oreilles, je ne dis pas de qui, c'est d'un théologien, en disant oui, quand on nous a enseigné, c'était sitôt à la fin de la guerre, il est venu faire une conférence à Fribourg. Ah oui, quand on nous a enseigné, on nous a montré la charité comme une petite vertu au milieu des autres. Il y avait la foi, l'espérance, la charité, puis après la prudence. Au fond, au milieu de toutes les autres vertus, comme dans une forêt, oui, il y avait peut-être un chêne un peu plus gros, charité, mais c'était au milieu de tous les autres. Alors, il disait, en captivité, j'ai compris que la charité, c'était vraiment la seule chose importante. En captivité, pas au noviciat. En captivité, parce que c'est un religieux. En captivité, j'ai compris que la seule chose importante, c'était la charité. Parce que en captivité, la foi avait disparu, l'espérance avait disparu, il ne restait que la charité. Alors, il ne restait que la charité. Et alors, à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait retourner à l'écriture, et que c'était l'écriture qui nous montrait qu'en effet la charité c'était vraiment la seule chose qui importait. Alors j'ai rien dit, évidemment, vous comprenez bien, je ne pouvais rien dire. Ça prouve qu'il n'avait rien compris à son noviciat, rien compris à ses études. Peut-être que son noviciat, ses études s'étaient faites dans une perspective stoïcienne. Alors à ce moment-là, la charité évidemment disparaissait et que c'était le point de vue de la force, le point de vue de la prudence qui dominait. C'était possible. Je crois qu'un véritable noviciat donne le sens de la charité comme la chose primordiale. C'est vrai, on éduque avec l'Esprit Saint dans la charité. Et la charité assume la foi et l'espérance. Il ne faut pas dire que la charité, pour devenir parfaitement elle-même, doit supprimer la foi et l'espérance. La charité ne supprime jamais la foi et l'espérance. Notre régime de la terre implique toujours la foi et l'espérance. Deuxièmement, il faut montrer que saint Thomas ne suit pas l'ordre de l'écriture. Pourquoi? Parce que justement, il offre à Dieu cet édifice particulier qu'est la théologie. Quand vous construisez un monastère, vous ne construisez pas le monastère directement dans le prolongement de la pierre sur laquelle il se construit. Ce n'est pas la peine de le construire. Vous le construisez avec un ordre de sagesse architectonique, n'est-ce pas, qui est un ordre de sagesse. Et donc vous pensez comment on pourra compléter la nature. Et c'est pour compléter la nature. Autrement, vous prenez un petit trou en terre, et vous descendriez dans ce trou tout en bas, pour vous relever. Comme ça, ce serait la moindre déformation de la nature. Alors on pourrait dire que la théologie, vous voyez, c'est un orgue architectonique. C'est vrai, c'est l'intelligence humaine qui est au service de la foi. La foi ne détruit pas la nature et l'intelligence. La grâce ne détruit pas la nature. L'architecture ne détruit pas la nature, quand elle est une bonne architecture. Elle ne détruit pas la nature. Elle lui permet d'être achevée, complétée. Eh bien, la grâce ne détruit pas la nature, la foi ne détruit pas l'intelligence, mais met au service de la foi l'intelligence, pour permettre à la foi d'être plus parfaite, pour purifier mon intelligence et lui permettre d'être plus au service de la foi. Donc, selon un ordre de théologie scientifique, il est évident que la charité apparaît pas en premier lieu, elle apparaît dans le retour vers Dieu. Parce que ce qui est primordial, c'est Dieu, puisque c'est Dieu l'auteur de la charité. Et donc je ne peux rien comprendre à la charité si je ne regarde Dieu. Et comme cette charité passe par le Christ, je ne comprends rien à la charité si je ne regarde le Christ. Mais la charité me lie à l'Esprit Saint, par le Christ et dans le Christ. Et alors la charité devient le moyen par lequel je retrouve vers Dieu. C'est vrai, c'est le moyen divin dont je me sers, c'est la qualité divine, nous allons voir, c'est la qualité divine dont je me sers pour retourner vers Dieu. Donc ne faisons pas le reproche à saint Thomas de ne pas suivre l'ordre de l'Écriture, parce qu'il sait très bien qu'il fait œuvre de théologien. Oui. Si je reproche à un architecte qui construit un monastère de ne pas suivre exactement ce que représente le terrain sur lequel il se trouve, eh bien, mais attention, je corrige. Alors, on ne corrige pas l'Écriture, mais on vient apporter quelque chose qui permet de mieux comprendre l'Écriture. La théologie est au service de l'Écriture pour mieux comprendre l'Écriture. Donc, voyez bien, c'est très important de bien situer l'ordre. Alors, deuxième grande objection qu'on a fait à saint Thomas. Je crois que ce sont les deux grandes. Il y en a des quantités d'autres. Hein, par rapport à la charité. Seconde grande objection qu'on a faite et qui est tout à fait récente, qui provient d'un protestant et que l'Église catholique a reçu très fort il y a quelques années, c'est déjà un peu passé. C'est Nigrens. Nigrens qui est un Suédois, je crois. Je me souviens, un moment, c'est paru. À Paris, ça sentait les luttes contre le traité de la charité de saint Thomas. Alors, Nigrens dit ceci. Pratiquement, vous avez trois mots pour parler de l'amour. Vous avez Eros en philosophie grecque, Philia en philosophie grecque, Agapé en philosophie en révélation. Ne mêlez pas les trois. Alors, je traduis les trois, vous voyez, Eros, ça veut dire l'amour, tout court, amour, Eros, pas uniquement l'amour érotique, hein. Amour, tout court, Eros, Philia, amour d'amitié, et Agapé, amour divin, amour gratuit, donné par Dieu. Alors, la thèse de Nigrens est celle-ci. Saint Thomas s'est mis le doigt dans l'œil. Il n'a rien compris à ce qu'on représentait l'agapé parce qu'il s'est servi de la philia grecque pour exprimer ce que c'est que l'agapé. Ce que nous allons voir. Il s'est servi de la philia comme une notion analogique dont je peux me servir pour essayer de comprendre ce que c'est que l'agapé. Quand vous regardez attentivement le livre du père Spic sur l'agapé, vous voyez qu'en effet, ça je crois que c'est important à souligner, vous voyez qu'en effet, d'un point de vue purement exégétique, agapé apparaît comme quelque chose de complexe. C'est un don gratuit qui m'est fait par où je suis en relation nouvelle avec Dieu. Et l'agapé ne distingue pas, parce que comme très souvent l'Écriture, l'agapé ne distingue pas la charité et la grâce. L'agapé implique, c'est pour ça que j'ai dit gratuité. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. En qui j'ai mis toutes les complaisances de Dieu. Donc, agapé, c'est toutes les complaisances de Dieu. Toutes les complaisances que Dieu m'a données. Tout ce que Dieu m'a donné gratuitement. Or, il m'a donné la grâce, il m'a donné la foi, il m'a donné l'espérance. L'Écriture ne distingue pas, parce que l'Écriture est à un niveau descriptif. Elle n'est pas du tout, l'Écriture n'est jamais au niveau de l'analyse philosophique, heureusement. C'est un niveau descriptif et symbolique d'une pensée poétique, d'une pensée qui Dieu qui m'enseigne. Et donc, au niveau de l'Écriture, il n'y a pas de distinction entre la grâce et la charité. Agapé signifie aussi bien l'un de l'autre. Je précise même encore, au niveau de l'Écriture, et ça le Père Spic souligne beaucoup dans son livre sur l'agapé, parce que j'ai lu tout ça, vous voulez me rendre compte, ces gros livres, il faut les lire une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie, c'est intéressant, c'est beau, tu vois, c'est très beau. C'est... Alors, à petite dose homéopathique, parce que c'est un peu lourd. Alors, gratuité, amour divin, et puis le respect. et le père Spic insiste beaucoup sur l'aspect du respect. C'est que l'agapé, c'est un amour respectueux vis-à-vis des autres. Alors voyez, c'est la vertu de religion. Je dirais, agapé fait la synthèse, c'est très beau du reste à bien comprendre, fait la synthèse entre ce que les théologiens ont distingué ensuite, la grâce, la foi, l'espérance et l'adoration. L'agapé implique tout ça. Le sujet qui reçoit l'agapé, c'est l'homme religieux. C'est très vrai. C'est l'homme religieux qui reçoit l'agapé. Et donc l'agapé va impliquer l'homme religieux dans son attitude respectueuse, dans son attitude d'adoration vis-à-vis de Dieu. C'est très vrai. Et si je regarde donc attentivement ce que c'est que l'agapé, au point de vue proprement exégétique, théologie exégétique, à la manière du père Spic, je vois que l'agapé est quelque chose de très complexe. Alors, dans cette perspective-là, se servir de la philia pour expliquer ce que c'est que l'agapé, on dira « Ah, vous ne saisissez pas tout ce que c'est que l'agapé. » Je dirais « Mais c'est évident. » Puisque, de fait, le propre de la théologie scientifique, c'est d'essayer de comprendre dans l'enseignement divin ce qu'il y a de tout à fait particulier. La théologie formalise, c'est-à-dire elle précise. Et elle montre ce qu'il y a de particulier. Or, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'agapé ? Est-ce le point de vue du respect et d'adoration ? Est-ce le point de vue de la foi et de l'espérance ? Non. Tout ça fait partie de l'agapé. Est-ce la gratuité ? Non. Qu'est-ce qu'il y a de tout à fait particulier dans l'agapé ? C'est de faire une nouvelle alliance avec Dieu. C'est de faire que Dieu est pour moi un père, et je suis un enfant. C'est de faire que Dieu est pour moi un ami et je deviens l'ami. C'est de faire que Dieu est pour moi l'époux et je deviens l'épouse. Donc ce qui caractérise l'agapé, c'est pas tout ce qui enveloppe l'agapé, mais c'est la formalisation de l'agapé. L'agapé me met dans une nouvelle relation à l'égard de Dieu. Et cette nouvelle relation, elle se traduit dans une relation d'amour, d'amitié. Vous voyez, c'est de ne pas accepter que la théologie scientifique de saint Thomas formalise. Elle ne retient pas tout. Elle montre que dans l'agapé, il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est de me relier à Dieu dans une alliance d'enfants, d'amis, d'épouses. Et c'est pour ça que je me sers de la fille. J'espère que vous comprenez bien ça. Parce que ça, c'est important à saisir, parce que ce sont des objections qui existent encore maintenant. Elles sont un peu moins virulentes maintenant, mais elles existent encore maintenant. Migraine, ça fait partie encore de quelque chose, on vous sert tout le temps ça comme ça. Ou tout simplement ce que dira le père Spic. Le père Spic n'attaque pas saint Thomas, c'est bien évident, mais le père Spic dira au point de vue de l'agapé ce que ça signifie selon les textes. En effet, agapé exprime un état très complexe de celui qui reçoit gratuitement de Dieu, celui qui est enveloppé, qui est dans la fidélité, celui qui est dans la promesse, celui qui vit dans le respect, l'adoration, c'est ça, l'agapé. L'agapétos, l'homme religieux, l'homme ami de Dieu, le bien-aimé, c'est en premier lieu le bien-aimé en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Oui. Or, le bien-aimé en qui le Père a mis toutes ses complaisances, qu'est-ce qu'il y a là de caractéristique ? C'est qu'il y a une alliance nouvelle du Père à l'égard du Fils bien-aimé. C'est pas l'aspect du respect, c'est pas l'aspect de l'adoration, c'est pas l'aspect de la gratuité, tout ça existe, faut pas le rejeter, mais il y a une alliance nouvelle, l'agapétos, et c'est pour ça que je reviens toujours à l'agapétos, parce que je crois que c'est ça qui nous fait saisir pourquoi saint Thomas dit filia. Filia, c'est un lien de personne à personne. Or, agapétos, c'est un lien de personne à personne. Tandis que le lien du respect, d'adoration, tout ça. C'est vrai, c'est encore un lien personnel, mais l'aspect personnel est moins lié. Tandis que dans la filia, l'aspect personnel est très lié. Oui. Alors, le mot eros, on verra dans quelle mesure on peut dire que dans le point de vue de l'agapé, dans le point de vue de la charité, Eros est assumé. Je ne vais pas regarder maintenant, ce qui est important, c'est Philia et Agapé. Parce que ce seront de fait les analogies que nous allons retrouver tout le temps. Bon, alors s'il y avait des difficultés là-dessus, notez-les. Hein. Nous allons maintenant entrer tout de suite dans l'analyse que fait saint Thomas. Mais c'était nécessaire de voir cela. Alors nous allons essayer, en faisant cette analyse, de découvrir, comme toujours dans saint Thomas, dans sa théologie scientifique, de découvrir les analogies propres dont il se sert. Alors, il y en a une qui est très visible, c'est Philia, c'est l'amour d'amitié. Donc, pour bien comprendre ce que c'est, ce que nous dit saint Thomas, il faut avoir dans la tête et dans le cœur ce qu'est la Philia d'Aristote. Parce que je crois que c'est bien Aristote qui a précisé le mieux dans son éthique ce que c'est que l'amour d'amitié. Saint Thomas a commenté l'éthique d'Aristote. Et saint Thomas a commenté d'une façon très particulière ce que c'est que l'amour d'amitié. Vous savez que dans l'éthique d'Aristote, il y a deux livres sur la filia. Extraordinaire. C'est le philosophe qui a le plus insisté sur la filia. C'est le philosophe qui a le plus insisté sur l'amour d'amitié. Il n'y a pas beaucoup de traités de l'amour d'amitié chez les philosophes. Cherchez dans Hegel son traité sur l'amour d'amitié. N'est-ce pas ? Alors à ce moment-là, vous comprendrez pourquoi on n'est pas hegelien. N'est-ce pas ? Parce que de fait, il n'a pas fait un traité de l'amour d'amitié. Platon, ah oui, il a parlé de Eros et de Philia. Mais Philia, très peu, le dialogue du Lysis. Eros, le dialogue du banquet. Il a mis ça en pleine lumière. Aristote ne parle plus d'Eros, il ne parle que de Philia. C'est très curieux. Et saint Thomas ne parle plus que de la charité dans le sens de la filia. Alors, comprenons, toujours, le propre du théologien, de théologie scientifique, c'est ordinairement de découvrir les deux analogies propres qui nous permettent de mieux comprendre le mystère. Il y en a une analogie propre qui est très nette, c'est l'amour d'amitié. On cherchera la seconde. Je ne vous la dis pas maintenant. Parce qu'elle est enfouie. Alors, il faut la chercher. Et j'aime mieux que vous la découvrez vous-même. Et on verra que ces deux analogies nous permettent de mieux saisir, au point de vue théologique, ce que c'est que la charité. Le mot caritas, hein, le mot caritas traduit en latin agapé grec. Alors aujourd'hui, comme on aime de retourner au grec, vous savez bien, on aime de miavophoné, n'est-ce pas, faut dire ça. Et alors, on aime de retourner au grec, alors c'est pour ça qu'on dit agapé. Je comprends très bien, parce que le mot caritas, le mot charité, les œuvres caritatives, n'est-ce pas ? Et, vous savez bien, au début d'une quête, soyez très charitable, hein ? Alors très très bien, soyez plein de charité, c'est-à-dire donner beaucoup de sous. Alors c'est ça, et alors c'est l'argent qui domine tout. Alors l'argent a même enveloppé caritas, c'est extraordinaire. Alors, parce que l'argent a enveloppé caritas, il faut reprendre un mot qui est moins usé, agapé. Alors aujourd'hui, agapé, ça va très bien. Quand vous parlez de l'agapé, vous dites très bien, nous sommes des enfants de l'agapé. Si vous dites, nous sommes des enfants de la charité, ça veut dire foyer de charité. Vous quittez. Alors, soyez des foyers de l'agapé, ça irait mieux. Donc, caritas dans saint Thomas, c'est directement le mot de saint Augustin. Et c'est en fait la traduction qui a été donnée chez tous les pères latins. Tous les pères latins disent caritas. Dites caritas, ce sera déjà mieux. Mais je vous dis, c'est un petit son aujourd'hui, un petit peu usé. À la suite des précédents traités, question 23, vous voyez, il y a déjà 23 questions avant, n'est-ce pas ? À la suite des précédents traités, il faut étudier maintenant la charité. De ipsa caritate. De caritate. D'abord de la charité en elle-même. Donc qu'est-ce que c'est que la charité ? Ensuite, le don de sagesse qui lui correspond. Alors ça c'est toujours très intéressant de voir la grande division que donne saint Thomas, et ça c'est capital de comprendre ça. Le traité de la charité chez saint Thomas, donc le traité de l'agapé chez saint Thomas, c'est la charité en elle-même.
et le don de sa grâce. Quantitativement, ça n'a pas de commune mesure. La sagesse, une question. La charité, une quantité de questions. Je ne sais pas combien, mais ça fait une vingtaine de questions. Bon, alors vous voyez, si je regarde quantitativement, il y a un déséquilibre. Si je regarde qualitativement, c'est tout de suite cette division. Charité, don de sagesse. Je ne peux comprendre parfaitement la charité que si je regarde le don de sagesse. Le don de sagesse, c'est l'exercice éminent, c'est-à-dire divin, de la charité. La charité va s'épanouir par le don de sagesse. Et le don de sagesse, saint Thomas nous le dit, le don de sagesse, c'est habitus contemplativus. Habitus contemplativus. La sagesse, c'est le point de départ de la contemplation. Alors vous voyez comme c'est intéressant de voir que la charité est regardée immédiatement dans la lumière de la contemplation. La charité est source de contemplation. Ah, je suis loin des œuvres caritatives. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et dans, ça, tout de suite, ça c'est la perspective du Moyen-Âge, c'est la perspective de saint Thomas, tout de suite. Là, ça fait comprendre comment, pour saint Thomas, la charité est étudiée dans la lumière du don de sagesse. Puisque c'est le don de sagesse qui me donne le point de vue de l'exercice éminent et divin de la charité, c'est vraiment dans la lumière du don de sagesse que j'étudie la charité. Et c'est dans la lumière du don de sagesse que je comprends la contemplation. L'œuvre propre de la charité. La charité n'a pas d'heure, elle est ordonnée à la contemplation. L'amour n'a pas d'heure, l'amour se suffit à lui-même. Si la charité est amour, l'exercice de la charité suffit. Pour lui-même, pas besoin d'être justifié. Il suffit. C'est le geste, vous voyez, de Marie, la sœur de Lazare, dernier geste, commence la dernière semaine, qui verse le parfum d'un empire du Seigneur, pour nous faire comprendre que l'amour n'a pas besoin d'autre justification que l'amour. Aime et fais ce que tu veux. C'est ça, ce que saint Augustin a tellement bien compris. C'est que l'amour se justifie par l'amour. Oui. C'est pour ça que quand on attaque les contemplatifs, ils sont sans défense. Parce qu'ils n'ont d'autre défense que leur amour. Et l'amour ne se défend pas. L'amour se vit. Vous ne pouvez pas défendre l'amour. C'est Jésus qui défend Marie. Directement. Et quand on attaque la contemplation, c'est Jésus directement qui défend Marie. Alors, ceci, c'est très important. Il faut étudier maintenant la charité d'abord en elle-même, puis le don de sagesse. Moi, je trouve ça très très beau de voir tout de suite les deux. Et de voir que ce que nous avons dit de la charité doit se comprendre dans la lumière du don de sagesse. Mais c'est toute une interprétation que nous devons voir tout de suite dans l'ordre de saint Thomas. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, toute la théologie scientifique se lit dans la lumière de la vision béatifique du Christ. Tout le traité de la charité se lit dans la lumière du don de sagesse. Qui lui-même est tout entier dans la lumière de la vision béatifique du Christ. C'est pour ça qu'on est au sommet. Alors dire que saint Thomas ne comprend pas qu'on est au sommet, c'est pas vrai. La charité n'est pas une petite vertu au milieu des autres. C'est le sommet. C'est le sommet et c'est dit dès le point de départ. Ce qui montre que c'est tout de suite lié au don de sagesse. À propos de la charité considérée en elle-même. Non, regardons la première partie. Il faut voir d'abord ce qu'elle est en elle-même, son objet, ses actes, les vices qui lui sont opposés, les préceptes qui s'y rapportent. Oui, c'est une division très intéressante et qui se comprend dans la lumière d'une théologie scientifique. Donc il faut regarder d'abord ce qu'elle est, ipsa, ipsa caritatis. Au sujet de la charité, en elle-même, ce qu'elle est elle-même, ce qu'est la charité. Alors vous ne pouvez pas savoir ce qu'est la charité puisque c'est un mystère. Hein. Donc le quid de la charité, ce qu'est la charité, vous ne pouvez pas. Mais le commodo de la charité, ça vous pouvez essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est que la charité? Puis alors, l'objet,
l'objet,
puis les actes, puis les vices. On comprend, tout ça est dans la lutte. La charité s'exerce dans la lutte. Et donc il faut regarder les vices, il faut regarder tout ce qui s'oppose particulièrement à la charité. Et puis le précepte divin. Pourquoi y a-t-il un ordre ? Normalement, la charité n'implique pas d'ordre. On ne demande pas à quelqu'un d'aimer. Je te donne comme commandement de m'aimer. C'est pas commode, hein ? Je veux dire, ah mais l'amour demande la spontanéité. Là. C'est vrai, je comprends qu'il y a un précepte de justice. Comment se fait-il qu'il y ait un précepte de charité ? Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de contradiction ? Un précepte de charité. Donc on comprend très bien que pour le théologien, le théologie scientifique, c'est très important de voir ce précepte de charité. Vous voyez, la notion de filia n'implique pas de précepte. Alors c'est peut-être là la seconde analogie. C'est qu'il y a un précepte de charité. Et que vous ne comprenez pas bien ce que c'est que la charité si vous excluez le précepte. C'est vrai, au point de vue humain, vous n'avez pas un commandement de l'ordre de l'amitié. Non, vous aimez qui vous voulez. J'aime celui-là, non, je compris. Pas du tout le bon genre. Pas du tout, c'est tout à fait autre chose, tout à fait différent. Pas du tout les mêmes goûts. Alors dire, on va vous donner un précepte de charité, d'amour d'amitié. Non, l'amour d'amitié exclut précepte. La charité inclut précepte. C'est quelque chose de très extraordinaire. Regarde, c'est tout de suite que se saisit saint Thomas dans la théologie scientifique. Il montre tout de suite ce qui nous donnera une intelligibilité divine de la charité. C'est qu'un précepte. Deuxièmement, il faut bien comprendre aussi, quand vous regardez la différence avec le traité de la foi, saint Thomas a commencé le traité de la foi par l'objet de la foi. Ici, il commence par la charité en elle-même. C'est aussi très curieux ça. Et c'est très intéressant. Vous voyez, c'est là où on voit très bien que saint Thomas ne traite pas du tout la foi et la charité de la même façon. La charité, on doit d'abord regarder ce qu'elle est. Puis on regarde son objet. C'est curieux ça. Pourquoi ? Parce que l'amour est d'abord subjectif. La subjectivité de l'amour. Et c'est vrai, parce que l'amour implique le sujet. Je ne peux pas séparer l'amour du sujet qui aime. L'amour est personnel. Il n'est pas premièrement objectif. Il est personnel. Alors, il est ensuite objectif. C'est très vrai, la purification de l'amour se fera du côté de l'objet. Alors, les actes, on comprend, c'est l'exercice. Et les vices, parce qu'il y a la vie. Et le précepte. Donc, c'est très, très ordonné. Vous voyez, ce petit plan, très simple. Évidemment, ce n'est pas du tout l'écriture. Mais c'est impliqué dans l'écriture. Si vous êtes intelligent, vous verrez que dans l'écriture, en effet, il y a des objets. Mais quand on demande qu'est-ce que c'est que mon prochain ? Qu'est-ce que c'est que mon prochain ? Ça veut dire quel est celui que je dois aimer ? Ça fait partie des objets. C'est bien évident, ça fait partie des objets. Et voyez la manière dont Jésus répond. Hein. Il répond d'une façon très particulière. Pourquoi ? Parce que l'amour est d'abord subjectif. Et si vous ne comprenez rien à la réponse de Jésus, vous n'avez pas compris que l'amour était d'abord subjectif. Parce que au point de vue objectif, il prend une drôle de manière de montrer ce que c'est. Il le prend par le sujet. C'est celui qui agit comme ça. Voilà ton prochain. Voilà celui qui est le prochain. Donc il le prend par le point de vue du sujet. Saint Thomas était attentif à ça. Tous les théologiens, tous les pères de l'Église ont été attentifs à cette manière dont Jésus regarde l'amour d'abord par le point de vue du sujet. Puis ensuite l'objet, puis ensuite les actes. Ceci, c'est facile à comprendre. Pour saisir ce qu'est la charité en elle-même, il faudra la considérer en elle-même et par rapport à son sujet. Ah. Mais le sujet est impliqué dedans. Mais il y a encore quelque chose de plus profond, c'est en elle-même, parce qu'elle est divine. Elle n'est pas humaine. Alors si je regarde le sujet, attention, je regarderai l'homme. Vous voyez la manière d'être subjectif aujourd'hui, hein ? La subjectivité d'aujourd'hui n'est pas précisément le mystère de charité. La subjectivité dans laquelle les philosophes nous ont plongés, c'est l'idéalisme, et ce n'est pas précisément la charité. Ça devrait nous aider à être plus dans la charité, mais de fait, ce n'est pas la même chose. On va regarder la charité en elle-même et son sujet. C'est très beau, ça. Donc vous avez objet, sujet et elle-même. Mais la distinction que vous faites d'habitude entre objet et sujet n'est pas suffisante quand il s'agit de la charité. Il faut dépasser ça. Il faut regarder la charité en elle-même. Objet, sujet. Alors quand on regarde ça, c'est très bien objet, sujet. C'est une distinction classique, on la connaît. Cette distinction est parfaite quand il s'agit de la connaissance, mais elle n'est plus parfaite quand il s'agit de l'amour. Et c'est pour ça qu'ici, quand il s'agit d'amour, il faut regarder autre chose que objet et sujet. On essaiera de comprendre. Hein? Je note simplement ce que saint Thomas me dit. Étudier en elle-même, donc étudier la charité en elle-même, est-elle une amitié? Ah, grosse, grosse question qui a scandalisé Nigrens. Et derrière Nigrens, beaucoup, beaucoup de protestants. Ce n'est plus voir la gratuité absolue de l'amour et de l'agapé. Est-elle une amitié? Quelque chose de créé dans l'âme. Ah, grave question aussi par rapport aux orthodoxes. Est-elle quelque chose? Les protestants, c'est très curieux, c'est extraordinaire de voir ça. Si on essaie de comprendre, alors, on essaiera de comprendre la position des orthodoxes, parce qu'elle n'est pas fausse. La position de Nigrens est fausse, mais la position des orthodoxes n'est pas fausse. C'est un autre aspect. Alors il faut leur dire, permettez-nous de respecter ce que vous dites, mais aussi d'aller plus loin dans une analyse théologique. Quelque chose de créé dans l'âme, est-elle une vertu? Voilà, nouvelle analogie, l'analogie de la vertu. Et par la vertu, le précepte. Vous voyez comment ça s'entre. C'est parce que la charité est une vertu qu'il peut y avoir un précepte. Si elle n'était pas une vertu, il n'y aurait pas de précepte. Est-ce que l'amour d'amitié, au point de vue humain, est une vertu? Vous vous posez la question, c'est intéressant. Est-elle une vertu spéciale? Une seule et unique vertu, vous voyez comme il développe, hein, comme le point de vue de la vertu, la nouvelle analogie. L'amitié, un seul article. Mais dès que fais intervenir cette autre analogie, qui est le point de vue, donc, amour d'amitié, et puis le point de vue de la vertu. Dès que ça, cette nouvelle analogie, c'est une nouvelle analogie la vertu, c'est pas la même chose que l'amour d'amitié. Dès qu'il y a cette nouvelle analogie, ah, ça demande beaucoup plus de précision. Alors, on va demander, est-elle une vertu? Est-elle une vertu spéciale? Est-elle une seule et même vertu? La plus excellente des vertus? Sans elle, peut-il y avoir des vertus théologales? Tout l'article, c'est sur la vertu. Oui, c'est extraordinaire. L'amour d'amitié va être complètement... Vous voyez, comme ça, Thomas est vertueux. C'est la vertu qui l'emporte. Alors, on peut dire, c'est le climat de l'époque. Les cathédrales. Les cathédrales sont vertueuses. N'est-ce pas? Donc c'est les climats de vertu. Au Moyen-Âge, on est vertueux. De notre monde d'aujourd'hui, non. Développons l'amour d'amitié. Parlons pas beaucoup de la vertu. Dire que l'amour d'amitié, dire que la charité est une vertu, non, c'est la dernière des choses à dire. Parce que si vous dites que la charité est une vertu, non, vous ne l'aimerez plus. Tandis que dire que l'amour d'amitié, oh, ça va très très bien. Là. Développer l'amour d'amitié, peut-être en dernier lieu pour sauver le précepte. Alors pour dire qu'il y a un précepte de charité, vous allez introduire la vertu, mais pas trop, ne parlez pas trop de vertu. C'est que saint Thomas lui. Alors ça sera à voir. Hein. Adaptation de saint Thomas dans notre monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-elle la forme des vertus? Est-elle la reine des vertus? Est-ce que c'est elle qui met le chapeau sur toutes les vertus? Pas de vertu sans la charité. Y a-t-il encore des vertus sans la charité? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas la charité peut-il encore être vertueux? Est-ce qu'un musulman qui ne met pas la charité quelquefois en premier lieu, est-ce qu'il peut encore être vertueux? Est-ce qu'il fait, quand il fait son jeûne, le maradan, est-ce qu'il le fait d'une façon vertueuse, charitablement ou pas? C'est vrai, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Vous voyez que c'est curieux, l'équilibre de cet article. De cette question. L'équilibre, c'est complètement déséquilibré. Complètement. C'est l'amour d'amitié et puis tout le reste pour la vertu.
Alors vous allez dire donc, pour saint Thomas, c'est net. C'est pas l'amour d'amitié, c'est la vertu. Non. C'est l'amour d'amitié qui est l'analogie par excellence. Saint Nigel l'a bien saisi. Il n'a pas reproché à saint Thomas de faire de la charité une vertu. D'avoir fait un amour d'amitié. Peut-être qu'en tant que protestant, il aurait mieux aimé que ce soit une vertu. Et en tant qu'orthodoxe, non. Oui, ça, c'est intéressant de voir ça, parce que c'est intéressant de voir la sensibilité. La sensibilité protestante, la sensibilité orthodoxe, la sensibilité catholique d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? La sensibilité d'un saint Thomas. La charité est-elle une amitié ? Nous allons entrer dedans. Alors vous comprenez le sept contrats. Il est dit dans saint Jean, « Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais mes amis. » Donc, agapetos. Vous voyez, c'est vraiment agapetos qui permet de faire le lien entre agapé, charité, et puis la philia. Ça, c'est très très joli de voir comment saint Thomas tout de suite défend le point de vue de la relation personnelle. Or, de quoi est-il question ici, sinon de la charité ? Alors, voici l'argument de saint Thomas. D'après le philosophe, et saint Thomas ne cache pas ses batteries. Il ne cache pas ça. Il monte tout de suite. Il monte tout de suite où il puise le point de vue de l'amour d'amitié. D'après le philosophe, ce n'est pas un amour quelconque qui constitue l'amitié, la filia, amicitia, mais seulement l'amour qui s'accompagne de bienveillance. Quand nous aimons quelqu'un de telle façon que nous lui voulons du bien. L'amour d'amitié, c'est en premier lieu un amour de bienveillance. Vouloir du bien à quelqu'un. Vouloir du bien à quelqu'un. Mais ce n'est pas du tout un amour d'accaparement, un amour captatif. L'amour captatif n'est pas l'amour d'amitié. Si passionné qu'il soit, c'est pas l'amour d'amitié. Il y a des gens très très passionnés qui disent « Voyez comme je vous aime !» Attention. « Voyez comme vous vous aimez !» Alors c'est captatif. C'est relatif à nous. On aime l'autre pour nous. On n'aime pas l'autre pour lui-même. Et ça, Aristote est farouche là-dessus. Et ça, c'est très actuel. Ça reste très actuel. La division entre l'amour captatif et l'amour oblatif, on sait bien ce que ça veut dire. Alors, l'amour de charité, l'amour, je veux dire, la filia, l'amour d'amitié, est en premier lieu un amour oblatif. J'aime l'autre pour lui, et non pas pour moi. L'aimer pour moi n'est pas un amour d'amitié. Donc l'amour d'amitié est d'abord et en premier lieu un amour spirituel. Mais seulement l'amour qui s'accompagne de bienveillance, quand nous aimons quelqu'un de telle façon que nous lui voulions du bien. Si nous ne voulons pas le bien des réalités aimées, mais accaparer pour nous ce qu'elles ont de bon, comme quand nous disons aimer le vin, ça c'est l'exemple grec, aimer un cheval, c'est encore un exemple grec, ou d'autres choses semblables, cette fois ce n'est plus l'amour d'amitié, mais un amour de concupiscence. Car il serait ridicule de dire de quelqu'un qu'il a de l'amitié pour le vin ou pour un cheval. Il l'aime pour lui. Ah, ça c'est un bon cheval, ça c'est du bon vin. Il l'aime pour lui. Pourquoi ? Il l'aime parce que ce vin excite son goût. Parce que ce cheval lui permet de pouvoir se détendre ou de pouvoir réaliser quelque chose qu'il aime. Tandis qu'aimer l'autre comme ami, c'est l'aimer pour lui. C'est l'aimer pour ce qu'il a de meilleur. Et pour que ce qu'il y a de meilleur en lui puisse se développer. Cependant, la bienveillance ne suffit pas à constituer l'amitié. Il faut de plus, entre les deux amis, un mutuel amour, mais un mutuel amour de bienveillance. Si un aime par accaparement et l'autre aime de bienveillance, ce n'est pas l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, c'est lorsque deux s'aiment d'un amour de bienveillance. Cependant, la bienveillance ne suffit pas à constituer l'amour d'amitié. Il faut de plus, entre les deux amis, un mutuel amour. Car un ami aime en son ami quelqu'un qui l'aime lui aussi. On aime l'autre en tant qu'il m'aime. Et donc l'amour d'amitié, c'est deux amours qui se croisent. C'est deux amours qui se répondent. Ce n'est pas seulement aimer le bien, c'est aimer l'ami, c'est-à-dire celui qui m'aime. Quelque chose de très particulier. Et c'est en ce sens-là que l'amour d'amitié permettra un développement plus intime et plus profond de l'amour. Parce que quand j'aime le bien, je suis attiré par le bien. Quand j'aime l'ami, je peux me donner. Car un ami aime en son ami quelqu'un qui l'aime lui aussi. Une telle bienveillance réciproque est fondée sur une certaine communauté. Alors ça, c'est la fameuse chose de la communication. La communication. Certaines. Vous voyez, il faudrait dire, parce que le mot communauté n'est pas tout à fait juste, il faudrait dire une telle bienveillance réciproque est fondée sur une certaine communication. Et la communication, ce n'est pas tout à fait la communauté. La communauté, c'est le résultat de la communication. Et on est toujours positif. On est dans un positivisme absolu. On regarde toujours les effets. Et on ne regarde jamais la cause. Et quand saint Thomas donne la cause, on regarde les effets. On traduit les faits. Et c'est curieux, hein, on les prend en flagrant délit de traducteur. Une telle bienveillance réciproque est fondée sur une certaine communication. La koinonia, le mot grec, hein, la koinonia, c'est la communication. La communication, c'est pas la communauté. La communication, c'est le fondement d'une communauté. Une communauté n'existe qu'en fonction de la communication des différents membres de la communauté entre eux. La communauté, ça ne tombe pas du ciel. On l'a fait, la communauté. Et on l'a fait dans la communication. Lors donc, c'est très important parce que l'Église se réalise dans la communication, pas dans la communauté. C'est la communication qui se fait l'Église. Lors donc qu'il y a communauté de bien entre l'homme et Dieu, lors donc qu'il y a une communauté de bien entre l'homme et Dieu, aliqua communicatio, donc une certaine communication, là encore traduisez. Lors donc qu'il y a une certaine communication de bien entre l'homme et Dieu, puisque Dieu nous fait partager sa béatitude, alors là on voit partager, puisque Dieu nous communique sa béatitude, c'est le même mot, hein. Communication et communauté. Donc Dieu nous communique sa béatitude. Vous avez quoi? Il a rétabli communication. C'est très bien. C'est très bien. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Moi j'ai la vieille traduction. Vous voyez. Et ça, c'est la traduction de qui? D'une des sœurs d'ici. C'est bien. C'est très bien. Ah oui. Ah oui, voyez, c'est le père Gardeil qui a corrigé le père Noble. Parce que le père Noble, c'était très très bien, mais c'était pas très formel. Le père Gardeil, ça c'est le petit Gardeil. Je prends, si vous voulez, comme ça, je n'arrive pas à corriger. Et c'est bien, parce que... Puisque qu'il y a une certaine communication de l'homme avec Dieu, il faut que celui-ci nous rend participants de sa béatitude. Oui, de fait, que celui-ci nous rend participants de sa béatitude. Il convient que sous ce rapport, une certaine amitié s'établit. C'est de cette communication qu'il est parlé lorsqu'il est dit dans la première épître aux Corinthiens, il est fidèle le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils. Il est donc manifeste que la charité est une amitié de l'homme avec Dieu. Donc vous voyez que tout repose sur ce texte. Il y a le texte de Saint Jean et le texte de Saint Paul. C'est très beau le partage. Il y aurait beaucoup d'autres textes. Mais c'est intéressant de voir le texte que prend Saint Thomas. Il est fidèle le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils. Donc c'est la communion, la koinonia. C'est la communion avec le Fils, communion avec la béatitude du Fils. On est appelé à la même béatitude. Nous sommes des héritiers. Nous avons la même béatitude que le Fils. Parce que nous avons la même béatitude que le Fils, il est nécessaire qu'on